bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadobudali, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Tom Villa, Frédéric Sigrist, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure, et nos invités, Joséphine Japy, Gogelin et Benjamin Laverge.
Benjamin.
Bonjour.
J'en ai plein la bouche.
Ça commence bien.
C'est l'accueil qu'on réserve aux nouveaux venus dans cette émission.
Allez, bon
Benjamin Laverne.
Benjamin Laverne. Pardon, je suis désolé d'avoir écorché votre nom dans le feu de l'action. Troisième long métrage d'Hugo Gélin. Et c'est une réussite, autant le dire, dès le début. C'est un film qu'on a adoré. Enfin, je dis on.
Oui, moi je suis avec toi.
Ouais, c'est unanime.
On est au moins deux, ce qui est déjà bien. Hein.
Oui, ouais, c'est très bien.
Comme on est deux à l'avoir vu, c'est bien. On est deux à l'avoir aimé.
Ah ouais. Une fois que Daniel y voit un film, ça y est.
Bon, c'est le seul que j'ai vu de l'année.
C'est vrai?
Ouais.
Alors raconte, c'est quoi l'histoire?
Allez-y, commencez l'émission.
Ah, d'accord, ok. Ah ouais. C'est pas grave.
Une formidable histoire d'amour entre François Civil et vous, Joséphine Japy. Une histoire d'amour, enfin, que l'on voit progresser dans le succès, en tout cas pour François Civil, dans l'attente, l'amour, la femme au foyer. Il y a vraiment des images où on se dit waouh, il passe à côté de cette histoire d'amour justement. Et puis arrive soit une tempête de neige, soit une faille spatio-temporelle.
Un événement fantastique.
Et il se retrouve dans une autre vie, mais toujours avec le même pote. Hein. Benjamin, vous êtes omniprésent. Vous êtes le pote qui est toujours là dans quelle que soit la vie.
Il est là.
Il est là, il est présent.
Il est régulier. Il comprend pas ce qui se passe. Pourquoi tout le monde s'agite? Pourquoi on parle de deux vies, tout ça?
Non, c'est ça.
Ça le concerne pas.
C'est ça. Et quand même, ça le travaille un tout petit peu. Ça le titille.
Ça finit par l'intéresser.
Il fait des voilà. Il va voir si Einstein en avait parlé ou pas. Et en effet, il dit c'est possible. Il se propose même. Et on le voit dans la bande annonce. Je ne divulgage rien. Il dit oui, je vais t'aider à retourner dans ton autre vie, une vie que visiblement François Civil, le personnage en tout cas, préférait vivre.
Ouais. Il dit ça, ça m'a intéressé ton truc, j'y ai réfléchi, ça me fait chier de le dire, mais parce que sinon il l'envoie à l'asile, quoi, puis le film s'arrête.
C'est un peu ça.
Voilà, ouais. Et c'est ce qui fait, le petit grain de folie du personnage fait que le film peut continuer parce qu'il va l'aider.
Le gros grain de folie, en fait.
C'est votre film, c'est votre scénar, c'est votre idée aussi, Hugo Gélin, comment tout est arrivé?
Ouais, c'est parti d'une angoisse perso. Je me suis dit merde, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais pas rencontré les gens qui m'entourent, la femme de ma vie, etc., etc. Et donc du coup, je l'ai confronté un peu autour de moi. Je me suis rendu compte que ça parlait un peu à tout le monde, qu'on soit en couple, pas en couple, célibataire, hétéro, homo, peu importe. En fait, on s'est tous construit un peu avec les gens qui nous entouraient, même avec nos amis.
Ouais, mais enfin, il y en a plein qui aimeraient avoir une autre vie, justement.
Peut-être, mais là, ça montre à quel point il faut chérir ce qu'on a.
Fréquenter que des gens heureux, quoi.
Non, mais en tout cas, lui, il passe à côté de celle qu'il a à côté de lui. Et donc, on lui tape sur les doigts, il va croire qu'il vit un cauchemar. Nous, ça va nous faire rire. Et très vite, il va comprendre que c'est peut-être une chance de rebooter sa vie.
Et oui, et alors le problème dans cette histoire, c'est que vous, Joséphine, vous êtes finalement peut-être dans un cauchemar dans ce qui est son rêve pour lui, et peut-être dans un rêve pour ce qui est le cauchemar pour lui. C'est-à-dire, on ne sait pas dans laquelle des deux vies vous êtes la plus heureuse ou la plus épanouie.
Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc où dans la première vie, elle s'éteint un peu, mais parce que le sacrifice, je crois, intervient quand la personne qui vous aime arrête de vous regarder. Se dédier à quelqu'un,
c'est... Joli, ça. Oula, je vais noter ça.
Mais attendez, j'essaie d'apporter des choses dès le matin.
Hyper fraîche.
Dès que Joséphine dort 2 heures, elle sort des phrases.
Non, mais ça y est, ça balance. Je suis pas la seule à avoir dormi 2 heures autour de cette table, je tiens à le dire, quand même. Je suis pas si seule.
Apparemment, vous étiez nombreux, oui. Je ne veux pas avoir les images.
Donc, ça fait 6 heures en cumulé, ça va.
Mais c'est pour ça qu'on est une équipe.
Donc elle s'est effacée pour le succès, la réussite et par amour pour son mari. Et elle s'est épanouie dans l'autre vie.
Bah dans l'autre vie professionnellement en tout cas, elle devient cette grande pianiste accomplie. Elle est arrivée au bout de son rêve.
Elle a une autre passion, c'est la musique. Elle a, c'est pas son mari.
Elle a sa passion mais après sa vie manque un peu de fantaisie quoi.
Elle n'est pas spécialement plus heureuse alors qu'elle est une grande concertiste. Elle n'est pas forcément épanouie non plus amoureusement.
Ouais, il lui manque quelque chose. Et en fait, le film s'attache aussi à réconcilier ces deux femmes. Celle, la pianiste accomplie professionnellement, enfin qui a accompli son rêve, et celle qui a envie aussi de s'épanouir dans une vie personnelle.
Et alors, c'est une formidable comédie romantique, parce que c'est un jeu de séduction. Je pense que tous les garçons vont tomber amoureuses de vous, Joséphine.
Amoureux de vous. Amoureux
aussi. toutes les filles tomberont amoureuses. Alors, elles ont le choix hein, entre Benjamin et François. Voilà, c'est ça, exactement. Elles
ping ou pong,
elles
quoi.
Ont le choix.
C'est un petit clin d'œil, un tatouage.
Les deux potes, là aussi, il y a des moments mais jubilatoires dans ce film, sont tous écrits où il y a une part d'improvisation, Hugo Gélin. Et je me dis, ça peut pas être écrit tellement ça va vite et tellement il y a de je te coupe la parole, je redémarre, je redémarre.
C'est justement parce que c'est écrit qu'ils peuvent se couper la parole à ce point-là, en fait. Mais c'est énormément répété. Moi, j'adore faire ça. Et c'est le moment de l'impro, en fait. Il est autour de la table. Il n'est pas sur le plateau.
Et nous, ça nous met dans un état d'excitation aussi, parce qu'on sait que c'est des rendez-vous, c'est écrit. Et on se dit, il faut être à la hauteur aussi de à quel point la scène est drôle à l'écrit. Et donc, on a une pression et on les prend quand même des scènes très sérieuses. Vraiment comme si c'était une scène de drame. Et il faut les travailler de manière vraiment, vraiment sérieuse. Et donc, on est dans un espèce de rythme d'excitation et on se marre et on fait « Attends, attends, vas-y, refais. » Et hop, et on fait « Non, non, c'est toi qui t'es marré là, non, on reprend. »
Non, voilà. Puis j'imagine que chacun veut aussi et ne pas décevoir Hugo ou son partenaire et aussi grave, et se dépasser.
Surtout, moi j'étais derrière le retour vidéo et c'est un bonheur pour un metteur en scène parce que tu vois tes deux acteurs qui sont en permanence en train d'essayer de se faire rire l'un et l'autre au sein d'une scène où ils doivent être sérieux et de se surprendre. Mais c'est à celui qui va faire plus surprendre l'autre en fait.
C'est
aller plus loin,
marche,
et donc c'est un bonheur. Absolument.
Mais c'est pas se faire rire pour faire rire l'autre et flinguer la scène. C'est au contraire, c'est pour alimenter la.
Mais vous changez de voix, vous passez soi-disant l'assistant. Mais c'est tellement drôle et tellement bien joué surtout. Voilà. De la comédie française, j'ai oublié de le préciser.
Bien sûr.
Benjamin Laverne, il faut toujours dire de la comédie française. En tout cas, c'est un très bon film qui sort aujourd'hui. Oui, mais il a quand même montré son cul.
Il a fait des squats pendant des mois. Pour ça, ce fessier. Non, mais il s'est préparé, le garçon.
J'ai squatté le fionneau et c'est tout. C'est que tout le reste du corps est tout maigre et mou. Au moins, ça, c'est bon.
Voici une série de questions concernant d'abord Joséphine. Joséphine que l'on a vue dans Clo-Clo pour la scène de rupture de France Gall avec Claude François dans Clo-Clo.
Ouais.
Qu'est-ce que Florent, alors ne le dites pas vous, hein, c'est eux qui doivent deviner. Qu'est-ce que Florent Emilio Siri, le réalisateur, lui avait conseillé de faire pour être bien préparé à la scène de rupture entre France Gall et Claude François?
Penser à sa séparation.
De s'engueuler avec son chéri de l'époque.
Non, sympa. Coaching.
On vit le.
Vas-y, quitte ton mec et tu seras plus sincère.
Incarne le sentiment.
Bah oui. De penser à la mort de Claude François.
Non.
Attends.
De relire sa facture EDF.
Alors,
de revoir les vidéos de France Gall.
C'est un lien avec le passé.
Ça n'a pas un lien avec le passé, c'est un lien avec la condition dans laquelle elle devait se mettre.
Tu devais pleurer.
Ouais, elle devait penser à un truc très triste, à un décès récent.
Non.
C'est que des trucs glauques, vous avez les pires solutions.
Couper des oignons.
Non.
Je sais pas, moi.
C'est une action.
Elle
va pas être de la menthe sous les yeux pour pleurer.
Un baume du tigre, ça marche.
Bah, doigt dans l'œil.
C'est bon.
Il y en a qui vont pleurer.
Merci Benjamin pour cette.
Non, pas d'idée. Rien. Ça rejoint ce qu'elle a dit et la vanne qu'elle subit là de ne pas dormir. Exactement.
Ouais, voilà.
Cet homme qui a été plus réactif. Hein.
Comme quoi, vous êtes très professionnel en fait.
Il vous a conseillé de ne pas dormir.
Mais oui, mais comme aujourd'hui en fait. Comme ce matin, on m'a conseillé de ne pas dormir pour venir vous voir.
C'est ça. Pour pleurer.
Exactement.
Il faut pleurer à terre. Vous voulez qu'elle pleure ? Action !
Et vous aviez même. Vous étiez surprise d'être choisie pour faire France Gall, étant donné que vous êtes grande brune, alors que France Gall est plutôt petite et blonde.
J'y suis allée et quand je suis sortie du casting, j'ai appelé mon agent et je lui ai dit « Tu oublies immédiatement, il ne se passera rien, ce ne sera pas moi, c'est impossible. »
Vous aviez vu toutes les autres prétendantes ou pas?
Mais il y avait beaucoup de monde, c'était des gros castings et j'étais grande, brune, France Gall, toute petite, blonde, je me suis dit « C'est terminé, enfin ça n'arrivera jamais. » Et au final, ça a fonctionné.
Et à votre avis, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné?
Une perruque.
Ouais, une perruque, le manque de sommeil, je sais pas, mais en tout cas, non, mais je crois qu'en fait, je crois que...
Vous êtes trop modeste pour dire votre jeu.
Non, c'est pas ça. Je crois que surtout, j'étais assez jeune, j'avais l'âge de France Gall au moment du film. Et je crois que du coup, on avait des similitudes, il y avait un espèce de parallèle avec la vie.
Enfant Benjamin Laverne, gardé méticuleusement dans un grand classeur.
Et quoi, des articles de journaux.
Des articles de journaux concernant quoi?
Le foot.
Le karaté.
Il faisait du sport lui-même, ses prestations sportives.
Ses prestations sportives, bonne vanne.
C'est artistique.
C'est dégueulasse.
Et puis, c'est
dégueulasse.
C'est artistique.
La discrimination. De spectacles qu'il avait vus.
Non.
Des partitions de musique.
De spectacles qu'il aimerait voir.
De cinéma.
De ce qui passait au dans le coin.
Ouais, non, mais je vais donner le point à Alexis parce qu'il a trouvé et le côté artistique et le cinéma.
Ouais, ça fait quand même
des articles. Ouais, ça fait beaucoup. Des articles concernant des actrices, des acteurs.
Oh là là, c'est vraiment concernant. Non, c'était des.
Bah, toutes les infos sur les acteurs.
Ouais, les biographies. C'est le magazine Ciné Live qui avait des CD-ROM. Où on pouvait CD-ROM, je sais
qu'il y a le
double poster. Alors, merci aussi, non
Hugo, ouais, il y avait ça aussi.
Hugo Gélin, toutes les vannes concernant des personnes d'un certain âge sont malvenues ici.
Okay. Oui, tout à fait.
T'as pas connu, toi, CD-ROM.
Moi aussi, bien sûr.
Et j'imprimais les biographies et les filmographies des actrices et des acteurs. Et je voulais faire un classeur avec tous les acteurs et toutes les actrices américains
IMDb,
et français.
IMDb, vous
voilà, ce qui est impossible. Donc j'essayais de tenir à jour les filmographies.
Mais pourquoi?
Parce qu'il est foyer.
Parce que je suis foyer.
C'est juste ça.
Et je voulais après j'en tuais un par un.
Voilà.
Je faisais une liste. Non, mais c'était, je sais pas, la fascination de ces gens-là, qui
et
faisaient
là,
rêver.
Vous aviez quel âge quand vous faisiez ça?
3 ans.
Non, j'avais, je sais pas, j'étais, j'avais 12, 13, 14, 15 ans.
Maintenant,
16 ans,
ouais.
Je sais pas.
Il continue encore.
Honnêtement.
Et après, je me suis rendu compte que je pourrais pas tenir à jour toutes ces
D'accord, mais vous étiez attiré par les feux de la rampe, vous étiez attiré par le côté
un peu glamour, je crois.
Un tout petit peu, voilà.
J'étais un peu, ouais. J'ai regardé les Césars, les Oscars, ça me fascinait un peu.
Les tapis rouges, quoi.
J'aimais ce métier pour les mauvaises raisons.
Et quel était l'acteur ou l'actrice que vous
Moi, je tombais amoureux. Je tombais amoureux. Voilà, j'étais.
Bah tous.
Ouais,
tous, mais on n'est pas acteur pour autant. Donc, mais au point de se dire, j'ai envie d'être lui. J'ai envie d'être acteur comme lui.
Jim Carrey me traumatisait pas mal quand même entre The Mask,
Dumb and Dumber,
Dumb and Dumber évidemment, c'était un peu, Ace Ventura, c'était un peu des, Woody Allen, je répète tout ce que
j'ai un autre mot,
il connaît aucun film,
Woody Allen,
Maigret,
bien sûr, non mais
les Brigades du Tic, c'était la révélation,
mais j'avais pas une filmographie, une cinéphilie très classique. Donc je regardais des films des années 90, les films qui sortaient au cinéma à cette époque. Donc voilà, j'étais pas fou de Greta Garbo, de voilà, c'est tout.
Non, de
pas
ça
comme actrice.
Patrick Devers, je sais pas.
Mais non, justement, je voyais pas.
J'ai
vu Les Valseuses plus tard. Il y a pas que Les Valseuses, Série Noire, j'ai toujours pas vu. Non, j'ai pas mal de lacunes en monstre du cinéma.
Ah, les gros boulets qui arrêtent pas de balancer des films. Ouais, nous on y connaît.
On s'y connaît.
Ah bon, c'est en
on
français,
connaît,
t'es sûr?
On y connaît. Ouais. On y connaît.
Avec qui Hugo Gélin a-t-il écrit son premier court-métrage?
Avec sa sœur.
Non.
Avec son chien.
Que j'embrasse d'ailleurs.
Avec
Sarah. Mais non.
Je sais plus.
Ah oui, non, tu l'as pas déclaré à la SACD. Ah,
mais avec Nagui, un copain de classe, un voisin. Quelqu'un de la famille?
Quelqu'un de connu ou pas?
Quelqu'un de qui n'est pas connu.
Quand je dis qu'il est mal réglé ce matin, j'invente rien, écoutez-le.
Mais c'est un rapport avec l'école.
Sa prof, son instit, le pion.
Son prof de gym.
Les petits copains.
Alors, prof, oui, mais prof de.
De maths,
non.
De techno,
non.
De musique.
De sciences,
français.
De français.
J'avais 19 ans.
D'espagnol.
18-19 ans.
De latin.
Théâtre? Non.
Est-ce que c'est une matière un peu
terminale?
Est-ce que sanskrit, philosophie,
Daniel, prof de philo.
Tout à fait.
Vous avez co-signé un court-métrage avec votre prof de philo.
Ouais.
Ça racontait quoi comme court-métrage?
Ah, écoutez, c'était un.
Là, on écoute.
Voilà.
C'est gênant, apparemment.
Ouais. Non, c'était un film qui s'inspirait de La vie secrète de Walter Mitty, qui est une nouvelle de Turber que j'adore, et ça s'appelait La vie sans secret de Walter Nyon, et c'était avec
Le titre.
Jean Rochefort. Voilà,
c'était pas avec les cabines téléphoniques et
Non, ça c'est mon deuxième.
Ça c'était le deuxième.
Ouais. Ah, et là j'avais 19 ans et c'était
celui que j'avais vu moi, j'avais pas vu le premier, j'ai vu le deuxième, d'accord.
C'était le seul et unique court-métrage que Jean Rochefort a accepté de faire, donc c'était fou pour moi comme
Comment on arrive à convaincre Jean Rochefort quand on a 19 ans?
Le blé.
Ouais.
Voilà. Bah non, les courts-métrages, il y en a pas, ça qui est terrible. On trouve son numéro, on l'appelle et on met toute une journée entière avant d'oser l'appeler. Et quand on l'appelle, on a une voix encore plus aiguë que la mienne, là, en ce moment. Et on lui dit « Bonjour, j'ai fait un court-métrage. » Et il me dit « Ah, alors, j'en reçois un par semaine, j'en ai pas fait un de ma carrière, mais en vois toujours. » Et donc je l'ai envoyé et j'ai attendu une semaine dans une angoisse la plus totale.
Une imitation improbable quand même.
Ouais, je suis désolé pour cette imitation, je m'excuse. Pour tous les Canteloup et le Brett.
C'est pas mal.
Et en fait, je l'ai eu une semaine après et j'ai eu un coup de bol incroyable, donc il faut avoir de la chance. C'est que lui, son rêve, c'était de jouer Walter Mitty. Et moi, c'était une vraie référence à mon film. Donc en fait, c'est un coup de bol incroyable. Voilà.
Parfait. Question concernant Joséphine. Elle a attendu 23 ans, mais pour faire quoi ?
Le permis ?
Non.
La vaisselle ?
Le bac ?
Non.
La douche ?
Quand tu dis elle a attendu 23 ans, elle a attendu la semaine dernière. Elle a attendu la semaine.
Ah oui, c'est ça.
Elle a attendu 23 ans, mais pour
faire
quoi ?
Pour dire quelque chose à ses parents, pour avouer quelque chose, pour...
Est-ce que c'est quelque chose qui est anormal de faire si tard ?
C'est quelque chose... Oui, c'est surprenant.
C'est surprenant,
oui. Pour apprendre à... Pour aller chez le coiffeur, pour aller... Non, mais je dis ça parce que moi, j'y suis allée super tard. Je crois que j'y suis allée à 20 ans la première fois.
Ouais, parle-nous de toi.
Ouais, non, voilà, donc très très tard.
Non, non, non. Elle a attendu 23 ans pour faire quelque chose.
Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez.
C'est un truc de fille,
beaucoup,
Didi.
Oui, que beaucoup de filles...
Vivre seule.
Non.
Ah oui, ça c'est vrai que c'est bien.
Présenter un garçon.
Non.
Ah ouais.
Présenter deux garçons.
Non, hein, on s'approche.
Avec une petite tenue là. Ça a lien avec l'intimité ?
Ça. Ouais, c'est physique en tout cas.
Ah ouais ?
Bah non, si.
Un piercing ?
Non.
Ah ouais.
J'ai bien une idée, mais j'ose pas le dire.
Exactement.
Ah, c'était quoi ? Ah, mais oui, oui, oui.
Vous percez les oreilles.
Mais oui, ah. Mais oui, c'est fou. C'est fou. Mais comment vous savez ça ?
Mais c'est parce que je connais vos oreilles. Vous non, mais je connais vos oreilles.
C'est fou.
Mais ce qu'il y a, c'est que vous saignez encore là. On se doute que c'est récent. C'est un peu dégueu, mais.
Non, mais c'est vrai. J'ai attendu 23 ans. J'en rêvais depuis longtemps.
Je comprends.
Et j'ai fait.
C'est vos parents qui ne voulaient pas ?
Bah ouais, ma maman voulait pas trop. Et du coup, elle m'a dit oh, j'aime pas trop. Je suis arrivée, j'en ai fait 3 d'un coup.
Ah ouais.
Pour
ah
bien
ouais.
y aller à fond.
Moi, je comprends votre mère, hein, trois d'un coup.
C'est vrai que c'est pas mal. Pour
Non. Final, deux mois plus tard, elle se les est percées.
Votre maman voilà.
Ouais.
Très bien.
C'est bien.
Donc et voilà, donc c'est pas mal.
Voilà, c'est bien.
Elle s'en est fait. Ouais, maintenant, on est en surenchère.
Allez,
j'en suis à 7.
Dernière question concernant Benjamin Laverne. Un petit truc avant de rentrer sur scène.
Vomir.
Il fait un bisou à une photo. Il fait une petite prière.
Faire l'amour.
Il danse. Il chante.
Non.
Il se brosse les dents.
Alors,
il brosse les dents de quelqu'un.
Il se met de la crème. Il fait un truc lié à l'hygiène, quoi.
Ouais.
Ouais.
Alors,
il s'hydrate la peau.
Déodorant.
Les surfaces supérieures de l'épiderme.
Alors, il se met de la crème. Mais laquelle ?
Crème Mont Blanc.
Bah, crème d'hiver.
Non.
Crème de jour.
Non.
Crème solaire au ton bronzant. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme crème ? Il soigne le corps.
Que le mot crème.
Ouais, je
le
prends de
jojoba.
Non. Baume du tigre.
Ah bah voilà, justement tout à l'heure je disais pour chialer.
Mais j'ai un pote qui sent la menthe, mais où qu'il soit, dès qu'il se balade dans les couloirs de la Comédie Française, on sait qu'il est là. il se saoule à la menthe poivrée là, en petite dose comme ça, et il se fout du baume du tigre tout le temps sur la poitrine.
Alors la menthe poivrée c'est bon pour la digestion par exemple, mais je vois pas pourquoi lui il en met.
Mais ça devient une superstition.
Ah ok.
Christophe, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Et en fait, il dit le baume du tigre c'est excellent les gars pour vous chauffer, et il a commencé à faire sa pub du baume du tigre il y a un an, et tout le monde disait mais gars mais t'es fou, pourquoi t'as besoin de ça ? Et puis petit à petit on s'est mis à essayer, à s'en mettre la fête, c'est pas mal. On met sur la poitrine comme ça.
Mais ça porte
sans respirer.
Ça réveille, ça
réveille un peu. Ouais. Moi, je le fais pour Scapin, mais parce que tout d'un coup, ça dynamise, ça réveille, et ça devient petit à petit un rituel, une petite superstition peut-être parce que c'est pas nécessaire. Puis surtout pendant, je l'ai pas fait pendant 5 ans avant. Une fois qu'on le fait, ouais, c'est agréable.
C'est Christophe Montenez.
Bon. C'est Christophe Montenez.
J'adore.
Tu me balances.
Mais
tout,
j'adore, non, parce que j'adore ce comédien et du coup, je pensais au rôle où on pouvait.
Mais c'est pour ça, je me suis dit ça rend bon. Peut-être. Ça rend bon.
Ouais. Vous aviez envie, alors parlons de cette très bonne comédie romantique, Mon Inconnu. Vous aviez envie d'aller dans ce genre-là, Hugo Gélin, vous avez dit, après c'est votre troisième film, hein.
Ouais.
J'ai envie de parler d'amour.
Oui, après j'avais aussi énormément envie de encore plus me frotter à la comédie et au buddy movie, donc les deux genres m'éclataient.
Buddy movie, c'est film de potes ?
Film de potes, ouais, enfin film de duo.
D'accord.
De comédie. Et en fait là, dans la comédie romantique, je me suis rendu compte que les anglo-saxons sont très forts. Coup de foudre à Notting Hill, Un jour sans fin, etc.
Pourquoi ?
Ils ont un peu moins de cynisme, ils ont un peu plus de premier degré là-dessus, ils n'ont pas honte de dire je t'aime. En fait, nous en France, c'est un peu sale de dire je t'aime. Donc, ah, je t'aime moi.
Là, c'est sale,
c'est vrai. Et là, c'est dégueulasse, on est d'accord,
dégueulasse. Ah, la honte.
C'est sale, c'est sale, c'est bien.
Ça, ouais, c'est ça.
En fait, ça allait bien.
Et en fait, la comédie romantique, je me suis rendu compte que celle qui était réussie, en France, il y en a eu, hein, il y a eu. Voilà. Jeux d'enfants, ouais. Il y a eu l'arnaqueur, jeux d'enfants. Ouais. Il y en a une toutes les décennies, mais il y en a quand même de temps en temps des très belles. Et en fait, ces comédies romantiques-là, je crois qu'elles sont réussies, et les anglo-saxons encore plus, parce qu'ils respectent les deux mots qui composent le genre. C'est-à-dire que c'est vraiment drôle et vraiment romantique. Il n'y a pas un des deux genres qui est un peu mis de côté.
Non, alors l'humour, on voit bien qu'il, d'abord, il y a plusieurs formes d'humour dans le film, justement. Il y a l'humour entre potes et il y a l'humour dans le couple. Définir le romantisme, c'est quelque chose d'un peu particulier, parce que comment ne pas tomber dans le gnangnan
Justement parce qu'on met assez de comédie pour ne jamais s'ennuyer dans le romantique, quoi, je crois vraiment, parce que certains films oublient d'être drôles. Et du coup, au bout d'un moment, on n'en peut plus de ce romantisme. Et certains films ne sont que drôles. Et en fait, du coup, ils ne sont pas incarnés. Ça n'est qu'une farce. Et donc, en fait, cet équilibre, c'est tout ce qui fait la comédie romantique.
Et c'est là que vous réussissez votre coup avec brio. Parce qu'une fois que j'ai vu Mon Inconnu, j'ai pensé en effet aux comédies romantiques britanniques. En me disant, ça fait du bien. Parce que tout de suite, on a envie d'être copain, même s'il est un peu bizarre, avec Benjamin Laverne.
Clairement.
C'est vrai.
Très clairement.
Voilà. Le couple que vous incarnez avec François Civil, Joséphine Japy, c'est aussi un couple dans lequel on a envie de se projeter, de vous trouver déjà très beaux tous les deux, de vous trouver drôle, complice. C'est pas l'amour tel qu'on en parle dans le cinéma français un peu récemment. Il y a quelque chose aussi d'un peu heureux qui donne envie d'être amoureux en fait. Et entre ça, la musique, la mise en image, la lumière, je trouve que tout d'un coup on a un vrai spectacle qui se rapproche de ça. Voilà.
Ah ouais, la musique va forcément avec la comédie romantique.
Ouais, mais avec le cinéma en règle générale. Hein.
J'aurais pu prendre ça.
Ah ouais.
J'aurais pu prendre ça. Non, la musique, elle est super importante, super présente. Vous avez demandé à un seul artiste de produire cette
Exactement.
Musique.
Exactement, ouais. Il n'y a pas de ce qu'on appelle des synchros dans le film. Il n'y a pas d'achat de musique connue déjà.
Si.
Oui, mais c'est dans l'histoire.
Elle est pas
faite. Mais en fait, elle est intégrée à l'histoire. Elle n'est pas là pour illustrer le film.
C'est exactement. Sage qui signe la musique.
Exactement. Et donc, en fait, on a souhaité que la musique du film ait une vraie identité propre, en fait. Qu'il n'y ait pas de musique qui nous fasse sortir de l'histoire, à part Françoise Hardy, bien sûr. Et il y a aussi tout le piano classique.
Et oui, absolument. Il y a du Chopin.
Il y a aussi ça,
oui. Oui, magnifique.
Mais c'est vous qui jouez.
Bien sûr.
Évidemment.
Composé le morceau aussi.
Mais on le voit, il n'y a pas de trucage. Ce sont vos mains qui y jouent.
Ah, il y a des petits trucages quand même.
Mais est-ce que vous savez jouer du piano?
Je ne savais pas. Et mais quand
Depuis
Hugo
que
m'a.
Vous avez fait percer les oreilles.
Mais j'ai tout changé. À mes 23 ans, j'ai pris un grand tournant dans ma vie. Non, mais Hugo m'a appelé en me disant.
Elles sont bien placées, oui. Ça le fait, quoi. On ne pose pas la question.
Moment, il y a un doigt qui rip.
Vous l'avez vu.
Le doigt qui rip.
Il a fallu quoi? Bosser, être coaché, prendre des cours de piano?
Tout ça en même temps. En fait, Hugo, quand il m'a appelé pour me dire que j'avais le rôle, il m'a dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai envie que tu sois mon Olivia, et la mauvaise, c'est qu'il va falloir que tu te mettes au piano, très sérieusement. Ce que j'ai fait.
Ça va, il y a plus grave dans la
c'était
vie.
Génial.
Si, parce
c'est
demain,
génial. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ce boulot aussi. C'est pour s'inventer des métiers qu'on n'aurait jamais fait autrement.
Ou pour mentir en disant, mais si, absolument, je sais monter à cheval, je sais sauter en parachute, et je fais de la moto tous les jours. Ouais.
Évidemment. Et du coup, je crois que c'était l'été, bref, et j'ai commencé la préparation en septembre.
D'accord.
Et on tournait en janvier.
Vous aviez un doute sur votre sur le casting, sur le fait d'être prise? Vous dites, il m'a appelé pour me dire que c'était moi. Donc il y avait une période comme ça où vous ne saviez pas si vous aviez le rôle.
Ah bah oui, je savais pas. En fait, on avait fait un rendez-vous avec François Civil.
D'accord.
Parce que je crois qu'Hugo avait besoin de projeter son couple. En fait, c'est ingrat de créer un couple au cinéma. C'est soit il y a une alchimie à l'écran, soit il n'y en a pas. Mm-hmm. Tu peux faire ce que tu veux, te démener avec une scène. C'est aussi simple que ça. Et du coup, je savais pas ce que ça donnait, quoi. Et je suis partie en vacances avec ma famille. Je me souviens très bien. J'étais à la montagne. Et là, je reçois un message de Hugo qui me dit « Je peux t'appeler ». Et j'étais en panique, j'étais pas
je
bien.
Je préfère te le dire de vive voix.
Je peux t'appeler, c'est terrible parce que c'est...
Ça sent mauvais.
C'est à double sens.
Non, c'est pas.
Bah ouais, c'est ça.
Je peux t'appeler Joséphine.
C'est le prénom à la fin. Ouais.
Le prénom.
Ouais, ouais, ça, c'est quand on est...
Pardon, je t'ai coupé.
Bah non, mais c'était juste ça. Et il m'a appelé et il m'a dit que
vous aviez le rôle.
C'était génial.
Comment, Benjamin, vous avez appris que vous étiez le pote? Puisque c'est aussi un film de pote.
Hugo, je le connaissais. On se connaissait parce qu'il avait produit Casting, qui était une mini-série qui passait
formidable
sur le canal
de Pierre Ninet.
Et donc il y avait cette bande de copains là et Hugo, donc je le connaissais bien, on s'entendait.
Et François Civil en faisait partie déjà.
François Civil en faisait partie. Et je savais pas que ce film se préparait. Et Hugo m'a appelé en me disant: Benjamin, j'aimerais bien te faire lire un scénario que j'ai écrit. Bon, très bien. Alors c'est François qui, je sais pas, tu m'avais dit ça. Oui, François va jouer le rôle principal. Moi, je rêvais trop de rejouer avec François. On se dit ça dans une bande de potes. On se dit, j'adorerais qu'on ait un jour un duo à l'écran dans une comédie. Et tu vas jouer. Ce serait pour lire sur le meilleur pote. Donc déjà, gros enthousiasme à lire. Et puis plus je lisais, plus je me disais, ah, c'est chouette, il y a cette ambition-là de partir dans le fantastique. Et puis il y a aussi ça, et puis il y a aussi ça. Et puis surtout, je tournais les pages. Et
à la lecture, on voit déjà les possibilités de jeu, on voit déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter au personnage. Ouais.
Bah, on voit les gros rendez-vous de comédie, en disant, ok, il y a ça qu'il faut réussir, comme vraiment des cadeaux, aussi des cadeaux de jeu. Et puis on est le premier spectateur, quoi. On est le lecteur, on a des émotions, on n'est pas que dans l'analyse du ok, faudrait mettre cette scène là, non, comme ça, c'est pas une consultation. Moi, je suis pas scénariste du tout, donc je le prends comme un premier public. Et je me réjouissais de me dire, trop bien, il y a cette scène, et puis il y a cette scène, ah, c'est chouette, le personnage n'est pas lâché au scénario, alors que c'est un second rôle, mais il y a une vraie courbe, il y a un vrai parcours. Donc je me réjouissais au fur et à mesure.
C'est un second rôle, c'est vraiment... Les trois sont très présents. Hein.
Bien sûr, c'est pour ça que...
La preuve, c'est que François Civil n'est pas là et que l'émission se passe extrêmement bien. Ça.
Il dort.
Vous l'avez déjà reçu.
Non, il est couché, ça n'a rien à voir.
Il s'est pas remis. Mais un gros kiff de lire le scénario et de savoir que j'allais le faire avec eux. Si je disais alors, oui, je sentais qu'il y avait des chances.
Visiblement, vous êtes copains dans la vie, François Civil et vous. Joséphine disait justement, il faut être crédible quand un couple est constitué à l'image. Comment on imagine, d'abord vous mettez quoi, des comme un serial killer, des polaroïdes sur un mur en disant est-ce que ces deux-là vont ensemble ou pas?
Ouais, exactement. Moi, j'ai proposé le film à François Civil en premier, c'est vraiment à lui que j'ai pensé tout de suite, j'avais très très envie de lui offrir ce rôle. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit: est-ce que tu veux lire? Il a lu, il a aimé, on s'est mis à travailler tout de suite ensemble.
Vous êtes passé par un agent, pardon?
Par
politesse.
Par politesse, et puis même, c'est toujours important d'avoir l'avis des agents, mais je le connaissais, donc l'agent était au courant, mais voilà. Puis après, j'ai organisé les petits essais avec Joséphine et 4-5 autres actrices, où François était présent, et où il fallait que un couple me saute aux yeux, en fait. Et avec Joséphine, ça a été le cas tout de suite. Et François était présent, et c'était des vraies grandes séances de travail, c'était plus que des essais, quoi. C'était des séances de 3-4 heures, avec chaque actrice, avec laquelle on faisait presque tout le film, des impros, etc., etc.
Et puis le travail de réalisateur, il est évident. Moi, je sais depuis longtemps qu'Hugo Gélin est l'un des meilleurs réalisateurs français. Ce que vous faites dans ce film-là, c'est-à-dire... Alors que ça pourrait être simplement une évocation, une vanne, ou un petit clin d'œil, il y a deux films. Il y a un film de science-fiction qui se déroule, où vous prouvez que vous êtes totalement capable de le réaliser aussi, même si ça finit en vanne, même si c'est que l'imaginaire qui a fonctionné. Il y a du boulot de palette graphique, hein, parce que le pari après Cataclysme que vous montrez en ouverture du film est fort, c'est tellement bien, on y est.
En fait, je voulais tellement pas commencer une comédie romantique par un générique rose avec une typo et des petits cœurs.
Ah, ça marche,
que je me suis dit, je vais
Paris
faire...
Détruit, quoi.
Voilà, Paris dévasté, post-apocalyptique, pour que les spectateurs se disent, mais je me suis trompé de salle.
C'est quoi, c'est multiplex, c'est mal indiqué.
Voilà, je trouve ça génial, parce que ça interpelle...
Ça amuse
de perdre les
gens.
Ouais, c'est
très bizarre.
Non, parce que ça interpelle, en fait, ça dit aux spectateurs, sois attentif, en fait, il va se passer des trucs, il y aura des surprises. Et par contre, je me suis amusé à le faire, on s'est tous éclatés à le faire, parce que c'est un film de genre dans le genre, à l'ouverture.
Exactement,
Mais par contre, j'ai fait 1 minute 30, hein, parce qu'on n'a pas le budget en France, sinon de faire plus.
Mais c'est formidable, c'est réussi. En tout cas, ça s'appelle Monde Inconnu, ça sort aujourd'hui au cinéma et on vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un succès annoncé, Tom Villain, on est d'accord.
Ça sort le succès, parce que ça sort le jour de l'anniversaire de ma mère et que ça porte bonheur. Tous les plus grands succès du cinéma sont sortis le jour de l'anniversaire de ma maman. Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis, Titanic, tous sortis un 3 avril. Même La Grande Vadrouille et Autant en emporte le vent. Je donnerai pas l'âge de ma mère,
sympa,
par respect.
Ouais.
Mais,
ouais.
Donc, Monde Inconnu. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui, à cause d'un petit problème, va se retrouver dans un monde parallèle où tout est identique, à l'exception que c'était une star et c'est plus le cas, et que sa femme femme n'est plus sa femme. En gros, c'est la vie d'un footballeur à la retraite. Mais, mais sa femme n'est plus sa femme, c'est le rêve de beaucoup de gens, ça. Pourquoi lui dire que c'est un drame? Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Oui, c'est une bonne raison. Enfin, je sais pas, mais surtout parce qu'il est jeune, parce qu'il a 30 ans. Mais tu fais le même film avec un mec qui a 50, 60 ans.
C'est un problème.
Il y a quand même une chance sur deux pour que le mec te dise, comment ça, ma femme, c'est plus ma femme, mais c'est... C'est trop bien. Enfin, je veux dire, mais c'est sûr, elle va pas me reconnaître. Non, mais c'est pas une feinte ou un truc, genre dans 2-3 jours, elle me dire, oui, comment? Tu me calcules plus, tu passes à côté de moi, tu me reconnais pas, tu te fous de ma gueule. Non, mais c'est vrai. On rêve d'avoir plusieurs vies. Si ça se trouve, ça se passe comme ça. Tu reviens à un moment clé où t'es bloqué à vie comme ça. Demander à Thierry Beccaro dans Motus, ça fait 30 piges qu'il le fait, il doit avoir un petit ordre d'idée. Et puis, t'es dans un monde parallèle, ça bouleverse, mais c'est vrai que... Tu vois un mec arriver et te dit, dans une autre vie, j'étais marié à Monica Bellucci, ça fait plus alcoolique que monde parallèle. Et lui, non, dans le film, il part à la reconquête de son ex-femme, mais pour compliquer la tâche, sa femme, c'est plus sa femme, elle le reconnaît plus, elle ne l'a jamais connue, et elle a un autre mec. Donc là, s'il y a des amateurs de foot, il va falloir faire une très très grosse remontada. Mais c'est possible, hein, demander aux supporters du PSG contre Barcelone ou contre Manchester United ou contre Manchester City. Non, et puis il faut être malin. Quand tu dis une fille, j'ai un truc à te dire. C'est que dans une autre vie, on a déjà été mariés. Ça fait technique de dark, de gros lourdeau. C'est le même gars qui doit te dire, à mon avis, ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel. Oui, je sais. Mais tu vas aller en garde à vue avec lui, tu vas voir. Et puis, le risque, c'est de s'enfoncer. Tu peux pas tout balancer tout de suite. Tu vas voir la fille et tu lui dis, alors, Joséphine, si on a été mariés. Vous êtes né le 12 juillet 94, vous avez fait une prépa Sciences Po à Paris. Votre week-end d'intégration, vous étiez déguisé en Padmé Amidala de Star Wars. Vous avez commencé le théâtre à l'âge de 7 ans en jouant dans une adaptation de Mary Poppins mélangée à La Grammaire est une chanson douce d'Eric Orsena. Petite, vous vouliez faire bonne sœur à cause de la mélodie du bonheur. Et ensuite, vous avez voulu être archéologue à cause d'Indiana Jones. Et vous avez une bague offerte par votre petite sœur du créateur japonais Noguchi qu'on trouve qu'à Tokyo. Ça peut faire taré, comme ça.
Ça fait dragueur, en tout cas.
Non, on était mariés dans une autre vie.
Non, j'ai lu Wikipédia. En tout cas, gros merde pour
le film. Elle était à deux doigts de craquer. Eh bien, joyeux anniversaire, maman Villa. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Vous avez connu ce genre de technique de drague, Joséphine?
Mais oui, mais depuis le film, maintenant, c'est comme ça qu'on me drague. Je reçois des messages. Mais c'est fou, en fait. Mais je pense que ça va devenir une vraie technique de drague.
C'est-à-dire, vous recevez des messages en disant, on se connaît?
En disant, mais dans une vie parallèle, on s'est aimé très fort, on a été mariés. Et voilà.
Mais vous, Benjamin, non?
C'est lui qui envoie les messages, donc.
C'est lui qui les envoie les messages.
Moi, je me fais pas draguer. Vous dites depuis le film, mais le
bonjour,
film
Benjamin.
Sort tout à l'heure.
Bienvenue, Benjamin.
Bonjour.
Vous voulez une autre tasse de baume? Encore un peu de baume du tigre.
Un peu de baume.
Pour Benjamin.
À mâcher.
Mais c'est vrai que l'une des questions, au-delà de ces histoires de monde parallèle, c'est de se demander est-ce que l'on peut reséduire la personne que l'on a déjà séduite?
C'est toute la question du film.
Vous savez quoi? Tous les films peuvent se résumer plus ou moins par l'histoire d'un homme qui rencontre une femme. Et puis après, on raconte un film. Et là, ce que j'aimais bien, c'est que c'était l'histoire d'un homme qui rencontre sa propre femme. Et donc, rien que de changer ça, ça permet un champ des possibles hyper drôle. Moi, j'ai vu Tout le monde dit I love you avec Woody Allen qui redrague Julia Roberts parce qu'il sait tout sur elle. C'est à pleurer de rire. Un jour sans fin avec Bill Murray, c'est un chef-d'œuvre absolu parce que Bill Murray apprend des choses sur Andy McDowell et il essaye de la draguer en l'arnaquant. Et nous, en tant que spectateur, on est complices de ça. Donc on a envie qu'il y arrive et en même temps on a envie qu'il y arrive en étant honnête.
À propos d'arnaque, voici Alexis Le Rossi.
Ah oui.
J'aime être présenté comme ça.
Oui, Alexis.
Attends, tu vas confiance. Voir. Hier, messieurs, j'ai préparé un tagine.
Allez.
Vous aimez ça les tagines?
Ouh,
bien sûr. C'est bon.
Ça dépend.
Hein. Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Alors moi j'ai fait un tagine
classique.
Bien sûr.
J'ai acheté un poulet, des carottes. Alors pour les carottes j'ai un peu hésité parce que carottes de terre, carottes de sable, on n'est jamais vraiment sûr, tu vois. Et surtout quand elles sont au même prix, ça aide pas. Bon, il faisait beau donc j'ai pensé soleil, mer, plage et j'ai pris des carottes de sable. Mais c'est pas forcément un choix rationnel, tu vois. Après j'ai pris des pommes de terre. Un oignon, des épices, mais j'ai oublié d'acheter des raisins secs.
Ah, cool. Aïe.
Et le problème, c'est que j'avais déjà commencé à cuisiner quand je m'en suis rendu compte. Et ceux qui cuisinent ne vont pas me contredire. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte qu'il te manque un ingrédient alors que tu as déjà commencé à cuisiner. Bon, il y a peut-être la guerre aussi, mais sur le moment, tu n'en es même pas sûr, tu vois. Heureusement, j'avais des olives. Donc j'en ai mis. C'était super bon, en fait. En dessert, j'ai fait une semoule au lait. Vous connaissez ça?
Ouais, j'adore.
Ouais. C'est comme du riz au lait, mais avec de la semoule. Ouais. Quoi, tu vois. Et moi, je trouve ça plus digeste. Alors, c'est très simple à faire. Bon, là, je vous donne la recette pour 4 personnes.
Merci.
D'abord, tu fais bouillir 1 litre de lait dans une casserole. Bon, moi, j'ai pris du lait demi-écrémé, mais ça peut se faire avec du lait entier. Ça, c'est... Voire avec du lait de chèvre, hein, c'est... si vous préférez. C'est vraiment vous qui voyez, là. Après, tu rajoutes 30 grammes de sucre. 30 grammes de sucre, c'est pas beaucoup pour 4 personnes. Pour info, c'est la quantité de sucre contenue dans une seule canette de Coca-Cola.
Ah, quand même?
Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quitte à manger 30 grammes de sucre, c'est quand même plus sympa de te partager une semoule au lait
avec
que de partager personnes. Une canette de Coca-Cola.
Ah, ouais,
ça... Sur toi, 4, tu vois. Ouais. Alors, pour finir, tu rajoutes 60 grammes de semoule en pluie.
Je vous avais prévenu.
Comme alors, ça, ouais.
En pluie, ça veut dire que tu parsèmes et puis tout en mélangeant comme ça. Voilà. Voilà.
Voilà. Et à la radio, on voit bien.
Et tu laisses sur le feu 8 minutes. Donc moi, j'avais mis la semoule à 16h02. Donc à 16h10, je l'ai retirée.
Voilà. Ouais.
Et avant que la semoule ne durcisse, tu peux rajouter de la cannelle, de la fleur d'oranger ou des raisins secs. Mais moi, j'en avais pas. Du coup, j'ai mis des olives. Bah, c'était très bon aussi. D'ailleurs, les olives... Ça se vend sans noyau ou avec noyau.
C'est vrai.
Et les olives avec noyau, elles sont un peu moins chères, mais pas beaucoup moins chères, tu vois. Alors que les noyaux, on n'en fait rien. Quand tu achètes des cerises, par exemple, avec les queues de cerises, tu peux faire des tisanes. Mais pas avec les noyaux des olives. Ou si tu achètes des carottes, avec les fans de carottes. Bon, quand je dis les fans de carottes, c'est des feuilles de carottes. C'est pas des fanatiques de carottes, tu sais, qui sont là, ouais, moi j'adore la carotte, non, j'en mange sous la douche et tout ça.
Non. C'est la queue.
Non, mais il y en a, mais des fanatiques de carottes. Mais là, je parle des feuilles de carottes. Bref, avec les fans de carottes, tu peux faire des soupes aussi.
Ouais.
Voilà. Mais pas avec les noyaux des olives.
Non.
Du coup, je me suis dit, quel intérêt d'acheter les olives avec les noyaux, si elles sont à peine moins chères. Alors, je suis retourné au supermarché pour voir ce que faisaient les gens, en fait. Sauf qu'un mardi à 17h, il n'y a personne dans le rayon des olives. Alors, j'ai attendu un moment, mais tu vois, tout d'un coup, il y a une dame qui est arrivée. Oh, j'ai dit, ça, c'est cool. Elle a regardé les boîtes, elle a hésité longuement, avec noyau, sans noyau. Elle a comparé les poids total, poids net égoutté, prix au kilo. Moi, j'observais discrètement pour voir comment elle se décidait. Et finalement, elle n'a rien acheté. Oh, j'ai perdu 10 minutes.
Ben, nous aussi.
Oh non.
Bref, j'ai fait un tagine et une semoule au lait avec les olives, et c'était vachement bon. Allez, salut à tous et bon appétit. C'est Anna, comme on dit chez moi.
France Inter, Maggie, la bande originale.
Ça fait partie de la bande, c'est sage, hein, ça fait partie de la bande originale du film Mon Inconnu qui sort aujourd'hui au cinéma. On va justement parler musique avec nos invités, Joséphine Japy, écoutée dans la fin des années 90. Vous n'étiez pas à la finale de la Coupe du Monde non plus.
Non mais en fait, l'histoire est folle parce que du coup, 12 juillet 98, la date de mon anniversaire, donc j'ai 4 ans. Et je vois tout le monde qui fait la fête dans les rues, qui
est fêté pour votre anniversaire.
Pour mon anniversaire. Et ben, je peux vous dire que je pensais que tous mes anniversaires allaient être comme ça. J'ai été vachement déçue à mes 5 ans, ça m'a pas du tout plu. Voilà. Mais du coup, c'est devenu ma chanson préférée.
Mais l'année dernière, ça va. Il y avait à nouveau la fête dans les rues de Paris.
Mais c'est pas le juillet. On s'est planté sur la date.
Je vais prévenir Didier Deschamps qui l'organise régulièrement un 12 juillet.
Mais s'il vous plaît.
Et maintenant, elle écoute ramener la croupe à la maison.
On chante plus
en gros, à 4 ans, vous saviez déjà que vous allez être comédienne, quoi. En gros, c'est forcément. Le fait que tout le monde vous acclame, tout le monde pense à vous, tout le monde vous regarde.
Les gens montent sur les
arbres. Le boulard à 4 ans déjà. Ouais, non, mais c'était en fait, c'est juste que je trouvais ça génial cette ambiance et je me suis dit, si tous les annifs sont comme ça, c'est quand même super.
C'est chaud, ouais.
Et bah, vous, ouais. Le cinéma, vous le découvrez grâce à votre père. C'est lui qui, en tout cas, vous dites ça, qui vous transmet le goût du cinéma en vous emmenant voir des films, en vous proposant de voir des films bien différents de ceux des petits enfants de votre âge, c'est-à-dire pas forcément des Disney, mais direct du Chaplin,
Buster Keaton.
Ouais.
Des Truffaut très tôt aussi. Mais en fait, je crois
comme
que.
Comme Benjamin Laverne, non
c'est ça, pareil. Non, voilà, mais en fait, je crois que mon père s'est retrouvé avec 3 filles. C'était le seul mec à la maison. Et je pense qu'il s'est dit, bon, faut que je trouve un truc pour avoir un lien avec ses. Enfin, faut
à
que je trouve un truc.
À partager
et,
avec
et il a trouvé le Cinoche avec moi. Et c'est vrai que ça a très, très bien marché. Et on se faisait beaucoup, beaucoup de films ensemble.
Et d'où ensuite l'envie de faire du théâtre. Tom en a parlé tout à l'heure avec ce texte d'Eric Orsenna. La grammaire est une chanson douce. 7 ans, 8 ans à peu près.
Ouais, complètement. C'était un mix entre La grammaire est une chanson douce et Mary Poppins.
Pas mal déjà.
C'était génial. Ouais.
Benjamin Laverne, vous écoutiez à ce moment-là. Hein,
je me rappelle des jumeaux il y a une vingtaine d'années avec leur locks dressés.
Marron. Marron.
Ça,
ouais.
Ça ressemble au mec marron un petit peu.
Et vous, Benjamin, vous montez sur scène aussi à cette époque-là. On est en 97. Vous êtes en quatrième. À Saint-Stanislas, à Poitiers.
Ouais. Ouais. Ça vous fait rire ?
Ouais, bah oui, je viens de Poitiers, donc je vais voir, forcément.
Quel collège ?
Non, moi j'ai enseigné à Victor Hugo, vous avez ensuite été étudiant.
Il y a quand même trois pots de vin autour de la table.
C'est vrai ?
Trois pots de vin ?
Yes. Ouais, ami du Poitou, bonsoir.
C'est fou.
Bonsoir, revenons au théâtre. Vous êtes sur scène, c'est votre prof de français, en fait, comme souvent, les premières expériences au théâtre en classe. C'est la jalousie du barbouillé de Molière.
Ouais.
Réveillez-vous, Benjamin.
Je suis là, je suis à fond, je vous écoute.
C'est ça. Oui, non, mais il va falloir que vous racontiez un petit peu.
Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de question à cette phase.
Non, mais j'arrive, mais éveillez-vous.
Okay. Tout d'un coup, tu vois, attention.
Généralement, c'est une première expérience qui fait qu'on a envie de devenir comédien ou pas. On ressent qu'on est très, très heureux sur scène. Vous, ça s'est passé comment ?
Bah, c'est ça, c'est une émotion très spéciale, quoi. Tout d'un coup, les gens vous applaudissent. Vous sortez de scène, le regard a changé un petit peu. Et du coup, ouais, c'est un espèce de petit bouleversement qui met le pied à l'étrier et en tout cas qui interroge sur cette
sensation
bizarre.
C'est marrant que vous disiez ça, c'est-à-dire que le premier truc qui vous a marqué, c'est que les gens vous regardent et vous applaudissent.
Non, mais c'est vrai, je m'en souviens
ou
de l'après.
C'est le jeu.
Non, c'est évidemment de jouer, la jubilation à jouer, mais je me rappelle de l'après. Et tout d'un coup, une petite fierté de me balader dans les couloirs du collège et me dire il s'est passé quelque chose d'important. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est ça, évidemment, le rapport au fait d'être aimé aussi.
Le regard des autres.
Le regard des autres, mais...
Hugo Gélin, vous écoutiez à ce moment-là, en 2000.
C'est hip-hop, ça. T'étais ce gars-là, toi.
Je dirais pas, hein, comme ça.
Non.
Ouais, je sais. J'aime bien surprendre.
Dr. Dre, oui. Et là, on en revient au court-métrage.
Ouais, on a parlé de Jean Rochefort, La vie sans secret de Walter Nyon. Et aussi, vous commencez à faire des making-of.
Oui, tout à fait. Et Jean Rochefort, je l'appelle et il me dit « Alors, mon petit chat ?» Non, je plaisante. Pire imitation du monde, mais qui s'entête.
«
Alors, mon petit chat ?» C'est une cata. Voilà, on va tous le faire. Oui, j'ai fait des making-of avant. Après mon premier court-métrage, j'ai fait un making-of.
C'est quoi ? C'est une façon de se faire la main, les making-of, d'être
en fait, c'est être sur des plateaux. Mais en fait, j'ai pas du tout aimé ça parce que c'est un métier de documentaire, en fait. Et moi, j'aime tout créer. J'aime la fiction. Et c'est un autre métier, en fait. Et j'avais surtout envie de dire aux gens que je filmais, poussez-vous, je vais le faire à votre place, quoi. Donc, c'était une espèce de frustration incroyable. Donc, très vite, après, ça m'a permis de dire, OK, les gars, je vais raconter mes histoires parce que c'est trop dur.
Un peu dictateur, déjà.
Tout à fait.
Ouais,
complètement.
Ouais,
2005, Joséphine, vous écoutiez.
Ah ouais, j'adorais ça. J'adorais. Je croyais que ça s'appelait Chalap.
Chalap.
Ça s'appelle pas Chalap.
Shut up. Joséphine, vous avez posé la question de savoir si vous chantiez ou pas.
Si
vous aviez envie de chanter, parce que est-ce que avec ce genre de morceau, on imagine ado ce que font toutes les filles ou tous les garçons devant la glace, reproduire des chorégraphies, faire
bien
des playbacks, chanter.
Bien sûr, j'ai eu des moments de tête à tête avec ma mère qui rentre par inadvertance dans ma chambre avec un faux micro, des costumes et tout, très gênant.
La brosse à cheveux à la place
mais
du
bien
micro.
Bien sûr, ouais. Évidemment, mais c'est des classiques. Non, et surtout, moi, j'étais passionnée de comédie musicale, des films comédie musicale. J'en regardais beaucoup. Et un de mes films préférés, c'était La Mélodie du Bonheur, du Bonheur Petite. Donc, ouais, j'adorais chanter.
Et 2005, pour vous, Joséphine, c'est la première apparition au cinéma avec de grands acteurs, notamment Jean-Pierre Marielle.
Complètement, ouais.
Avec qui vous tissez un lien particulier.
Alors, mon petit chat.
Ah, mais là, on le voit.
C'est lui.
Marielle, j'ai plutôt les galettes de Pont-Aven. C'est une autre réplique. J'ai pas osé.
Mais oui, non, mais Jean-Pierre, c'est quelqu'un que... En fait, ce qui était génial, c'est que j'avais 10 ans, donc je ne me rendais pas du tout compte du grand monsieur que c'était devant moi. Et en fait, il m'a un peu pris sous son aile, il m'a montré ce que c'était qu'un plateau. Et on avait un rapport très simple, presque de grand-père
paternel
à petite-fille.
Ah,
quoi.
Oui, d'accord.
Et je l'ai revu au César il y a pas longtemps. Et quand il m'a vu, il m'a appelé la petite. Et ça m'a beaucoup touchée. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Benjamin Laverne, vous écoutiez Charlie Winston, vous. I'm gonna put my
Vous entrez au conservatoire, Benjamin, conservatoire national supérieur d'art dramatique. Vous travaillez avec plusieurs enseignants. Vous êtes réveillé là, je vois, vous me regardez. Môme du tigre,
ça y est,
on est en forme. Et il y a des profs qui comptent forcément dans une carrière, dans un enseignement. Vous pouvez retenir qui, justement, pour illustrer un peu votre éclosion ?
Au conservatoire, Dominique Valadier, que j'ai eu 2 ans comme prof, qui est une comédienne démente, qu'on voit pas mal au cinéma en ce moment, d'ailleurs. Oui. Et puis surtout qu'il y a une pédagogue hors pair, quoi. Et puis qu'il y a une espèce de diapason dans l'oreille et qui nous fait répéter les phrases. Je me rappelle une scène de On purge bébé de Fedo et on reprenait 20 fois, 30 fois les 4 premières phrases et on les faisait comme ça ou comme ça ou comme ça.
Vous parlez de diapason parce que le jeu est une musique.
Bah c'est hallucinant. À quel point c'est vraiment, on se dit que c'est une partition, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que surtout à quel point le comique peut éclore. Ouais. Au demi-temps près, c'est chirurgical, quoi.
Et après, on l'éprouve.
Comme il peut se planter au demi-temps près aussi.
Bah, c'est terrible. Puis quand on joue une pièce plusieurs fois à la Comédie Française, quand je jouais La Biche, justement, le chapeau de paille d'Italie, tous les soirs, je constatais, je me disais, merde, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes gens. Mais c'est hallucinant à quel point on est responsable aussi. Les gens sortent, les comédiens sortent parfois en disant, il n'est pas chaud le public, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ils sont vraiment durs. Bah t'es mauvais gars, c'est tout.
Non mais je veux dire, il y a aussi des bons publics et des mauvais publics.
C'est vrai. Il y a les publics du dimanche après-midi. Non, bien sûr, il y a des publics qui varient. Puis quand.
Fais gaffe parce que Leïla va beaucoup au théâtre le dimanche après-midi.
C'est vrai.
C'est son truc.
Ouais.
Non mais c'est passionnant en tout cas de.
C'est vrai en plus.
C'est vrai.
Non mais enfin en semaine et donc aussi le dimanche parce que il y a pas assez de temps pour voir les pièces.
Bien sûr.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le même public.
Ouais.
Ah, c'est vous qui plombez l'ambiance
c'est moi.
À 14h dimanche.
Ouais, et puis avec le bonbon à la menthe qui est qu'elle déplie pendant le spectacle.
C'est celui-là. Voilà.
Mangez-moi
c'est
ça.
Moi.
Hugo Gélin, vous écoutiez dans ces années 2005.
On reste, Dieu merci, à la merci d'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure! Quelle aventure.
On est même plutôt en 2009 à ce moment-là.
On est en 2009, vous êtes prêt à réaliser votre premier film. Et là, il y a un événement qui fait que c'est pas possible. Le producteur, le distributeur en fait, je crois.
Ouais, tout à fait.
Se retire.
Ouais, j'avais bossé pendant 5 ans pour écrire mon premier film. J'avais fait 1500 dessins de storyboard. Enfin, j'avais bossé comme un dingue. J'avais mon casting avec plein de gens super dedans et tout. Et à un mois du tournage, le distributeur m'a lâché. On a dû tout annuler. Et en fait, j'étais en bout de course, j'en pouvais plus. J'avais fait 27 versions du scénario, enfin bref. Et donc du coup, j'ai tout arrêté. Et j'ai décidé de faire un break de 2 mois. Et quand j'ai terminé ce break, j'ai commencé à relire le script et me rendre compte que le problème venait sans doute de moi et du scénario. Et en fait, il y avait trop d'histoires dans la même histoire. C'est un peu le cas de tous les premiers films, enfin de beaucoup de premiers films, malheureusement. Et donc du coup, j'ai écrit 3 scénarios en même temps. Et l'un était mon premier film comme des frères. Il y avait un autre film et puis le troisième, c'était Mon Inconnu. Que j'ai commencé à cette époque-là. Déjà.
Voilà.
Incroyable.
Ouais. Donc c'est un mal pour un bien en fait,
cette
aventure.
Oui, j'ai appris en fait.
Je suis juste en train d'imaginer le scénar qui avait ces 3 films en un. Ça devait être
un gros bordel.
C'était chargé.
Et puis il y en avait d'autres en plus. C'était.
Arriver.
Ce qui est fou, c'est que des gens m'aient suivi jusqu'à un mois du tournage. Hein. C'est surtout ça qui était dingue à l'époque.
Non, ce qui est fou, c'est pas avoir fait une dépression non plus en disant j'abandonne parce que je suis pas fait pour ça. Qu'est-ce qui fait que l'on tient? On croit en soi. C'est une.
Non,
c'est l'amour propre.
Ouais, non, pas du tout, parce qu'on croit pas trop en soi en général. Mais c'est plus fort que nous. On a qu'une envie, c'est de raconter des histoires. Donc on veut être dans une salle et entendre les gens rire, entendre le silence aussi dans les salles et voir les yeux des spectateurs émerveillés après les films. C'est un bonheur absolu, quoi, de vivre ça et d'être caché au fond.
En tout cas, les deux premiers films étaient une réussite. Le troisième en sera également une de réussite. Mon Inconnu sort aujourd'hui et nous allons parler avec vous. Marc Bellassène, merci de venir à ce micro. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre L'énergie d'aimer ou comment entretenir l'amour et le désir dans le couple. C'est publié aux éditions Larousse. C'est tout un programme.
Je vous écoute.
On disait tout à l'heure reconquérir l'amour. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'ailleurs de reconquérir l'amour, de
écoutez,
se dire je peux repartir
une... Très bonne idée à partir du moment où on sent que l'amour est toujours là. L'amour ne disparaît pas quand on a vraiment aimé une personne. Très profondément, ça ne disparaît pas.
Oui, mais il y a des couples qui se séparent en disant je l'aime maintenant comme un frère ou comme une sœur. Tu es le mari oui. tu es le père de mes enfants, tu es la femme, tu es la mère de mes enfants. Mais
il y a beaucoup d'inceste dans la famille.
C'est très
Nagui,
très très étrange.
J'essaie de nous mettre sur plusieurs points de vue.
Qui sont justes.
On s'est aimé. Je n'oublierai jamais qui tu es, mais.
C'est vrai, il y a cette version-là aussi. Ouais. Mais je pense que lorsqu'on a aimé une personne profondément, cet amour ne disparaît vraiment pas. C'est-à-dire que on peut se quitter en étant toujours très amoureux de l'autre.
Ce qui n'est pas pareil que de reconquérir son amour.
Alors, non. Là, il n'est pas question de reconquérir. Ouais. Quand il s'agit de reconquête, je pense qu'il est fondamental de pouvoir sentir que le lien amoureux ne s'est pas totalement délité. C'est-à-dire qu'il peut, le lien amoureux est souvent très attaqué dans les couples. Mais on ne se rend pas compte.
Par quoi?
Alors, par exemple.
La monotonie, la lassitude, l'habitude.
Ce ne sont pas forcément les attaques. Ça, ce sont les conséquences d'une vie monotone, parce que le couple est très souvent oublié. C'est-à-dire qu'on s'occupe de beaucoup de choses, d'informatique, de son boulot, de ses enfants, de tout ce qui est digital, mais le couple est oublié. Donc, si on oublie le couple, c'est parce que, et s'il est attaqué, c'est surtout parce que, par exemple, on touche des points très sensibles du partenaire. Mmh. On attaque des liens. C'est souvent ça, c'est-à-dire les liens amoureux, les liens familiaux. Par exemple, quand on montre une jalousie excessive, quand on se voit très intolérant vis-à-vis des différences de l'autre.
Excusez-moi, Joséphine a réagi sur la jalousie.
Elle a fait un petit signe pour Benjamin d'ailleurs.
Oui. Non, parce qu'à un moment dans le film, il a une petite réplique où il dit « Ah, la jalousie, c'est très très vilain ».
C'est très très vilain.
Et ça, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à ne pas m'empêcher de rigoler pendant le tournage. Voilà.
Est-ce que justement la jalousie est une source de rupture fréquente dans un couple ?
Ça peut l'être, si elle devient pathologique, oui. C'est-à-dire qu'une jalousie qui devient étouffante, envahissante dans un couple, ça devient intolérable.
Et alors le fait qu'on ait le sentiment de découvrir quelqu'un, ce qui se passe dans le film, est un moteur à l'amour, parce que justement il y a cette espèce d'appétit de séduction, de drague, de conquête, même si le mot est un peu violent ou militaire, mais de se dire on va apprendre à se connaître, tout on va se fait. Découvrir et à l'inverse, c'est aussi dans le film, il la connaît. Cette oui. connue, inconnue, d'ailleurs, même dans la typo, on joue sur ce côté, je la connais, je la connais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort pour l'amour ? C'est de bien connaître quelqu'un ou au contraire, c'est un tue-l'amour de connaître quelqu'un et d'avoir cette fameuse phrase dans un couple avec...
Je suis perdu dans ta question.
tu es tellement prévisible. Non, mais est-ce que connaître est une bonne chose en amour ?
Il y a beaucoup de choses très belles, comme vous avez dit, et très justes. Oui. Je pense que l'amour, c'est une éternelle rencontre. En fait, on ne connaît
ça,
jamais.
Beau, je peux le noter.
Oui, allez-y, notez-le.
L'amour est une éternelle.
Oui,
rencontre.
C'est quelque chose qui s'écrit tout le temps, surtout si on y prend soin. Parce que finalement, on ne connaît jamais.
Tais-toi.
Mais c'est comme le regard tout à l'heure, ce qu'a dit Joséphine.
C'est-à-dire.
À propos
oui,
du regard.
C'est ce que j'avais dit.
Allez-y.
C'est ce que j'avais dit.
Non, le regard est central. C'est-à-dire qu'en fait, on est. On se voit dans l'autre, on est défini par l'autre, par son partenaire, et que on voit bien dans le film, et je l'explique très bien aussi dans mon livre, comment, si vous voulez, à partir du moment où on n'est plus regardé, où on n'a plus d'attention de l'autre, eh bien justement, là, c'est là que les choses commencent à se défaire. Tu ne me vois plus, tu ne m'aimes plus comme avant, tu ne fais plus attention à moi,
il faut entretenir
etc.
le désir. Alors,
absolument.
En plus, la toile de fond de cette comédie romantique, c'est sur la notoriété, c'est sur la cette fois-ci, être connu, mais au sens populaire du terme. Dans une vie, c'est le mari qui est la star, dans l'autre vie, c'est la femme qui est la star. Et est-ce que ça aussi, ça peut venir, le regard des autres dont nous parlions tout à l'heure, peut venir déstabiliser un couple, la réussite en société
tout Tout à fait, tout à fait. Justement, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est que on se perd. C'est-à-dire que, et même là, si c'est pas dans deux dimensions, il en reste pas moins que la réussite de l'un ou la réussite des deux fait que on s'oublie. C'est-à-dire que le couple est mis de côté. Et
c'est ce qui est le cas de l'épouse dans la première vie, c'est-à-dire qu'elle est elle s'efface totalement pour la réussite et le succès de son mari auteur de science-fiction.
Et ce qui est très beau dans la reconquête dans le film que moi aussi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, on s'ennuie pas, c'est le fait que c'est tous ces efforts qu'il fait effectivement pour la reconquérir, et notamment ce qu'il y a de plus beau, c'est il va jusqu'à même de faire une biographie, il décide de faire une biographie, ce qui est un travail monumental.
Oui, enfin ça c'est il est prêt,
un prétexte,
il est prêt
quoi.
Oui, il est prêt à tout. Absolument, mais c'est pour dire que il faut beaucoup d'énergie pour aimer.
Ça c'est vrai.
C'est du boulot quoi.
C'est que l'amour prend de l'énergie.
Voilà, c'est usant.
Absolument. Vous ne me faites pas dire.
Ouais, est-ce que c'est usant. Est-ce que c'est un travail qu'il faut faire, c'est-à-dire entretenir le désir et reconquérir en permanence. Est-ce que c'est la recette de l'amour qui dure?
La recette de l'amour qui dure. En tout cas, de reconquérir, oui, d'une certaine façon. Parce que, si vous voulez, l'amour, c'est quelque chose, c'est une donnée qui existe dès le début. Hein, quand deux couples, l'amour est toujours réciproque, sinon il n'y a pas d'amour. Donc, il faut effectivement entretenir, dans la mesure où, justement, le quotidien et les tourments du couple amènent une usure.
Mais est-ce que dans l'amour, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre?
Ah, voilà une superbe question.
Enfin, elle arrive.
Ouais, non, je ne pose que des bonnes questions. Je vous ai suivi. Oui, alors, est-ce qu'il y en a un qui aime plus que l'autre? Je dirais oui. Parce que chacun aime à sa... Comment?
Qui aime mieux.
D'aimer mieux.
Alors, absolument, d'aimer mieux. Mais chacun aime à sa mesure.
Bien sûr.
C'est ça le problème. Et on n'est jamais aimé comme on voudrait l'être.
Chez Larousse, Marc Bellassène, l'énergie d'aimer entretenir l'amour et le désir dans le couple.
Merci.
À qui je l'offre.
Bah moi, c'est mort.
Bah, Daniel.
Merci Marc, en tout cas, d'être venu à ce micro. Tanguy Pasturo. Tanguy, c'est la fin des gadgets en plastique chez Picsou Magazine. C'est fini ça.
Oui, c'est Donald en personne qui a livré l'information lundi. Picsou se met à l'écologie. Plus de jouets en plastique pour enfants, fabriqués en Asie par d'autres enfants. Alors que c'était le moyen de faire communiquer les enfants du monde entier. C'est dommage, mais enfin, c'est bon pour la planète.
On en parle après les infos de midi.
Oui.
Bonjour à tous. Daniel Morin.
Bravo Nagui.
Frédéric Siglis.
Bonjour.
Alexis de Rossignol. Tanguy Passio.
Bonjour.
Et nos invités Joséphine Jappy, Hugo Gélin et Benjamin Laverne.
Ah oui. Bravo. C'est bien dit.
Pour. Oui.
La
dernière fois qu'on a eu trois invités, c'est extrêmement rare.
C'est vrai, c'était
avec. C'était Gérard Depardieu, Christian Clavier.
Et Bertrand Blier.
Ah
oui, d'accord.
Et comme là, il y en avait un qui était moins bon.
On dira pas lequel.
Comme là,
il y en a un qu'on préfère.
Aussi. Il y en a un qu'on kiffe.
Avec ce très bon film qui s'appelle Mon Inconnu, qui sort aujourd'hui au cinéma. Histoire d'amour, histoire de potes. François Civil, Edith Scob, Camille Lelouch aussi. On l'a pas cité, pardon. Amaury de Crayoncourt, qui joue peut-être votre mari ou pas. Faut voir le film pour comprendre ce qui va se passer. Et puis nos invités en plus, Hugo Gélin, Joséphine Jappy et Benjamin Laverne, ça sort aujourd'hui au cinéma. C'est un très, très, très bon film. Tout public, faut le préciser. Il n'y a pas de scène qui pourrait, entre guillemets...
On voit les fesses de Benjamin, 3 secondes, c'est tout.
Ouais,
Il fait rien de.
Je fais rien avec.
Il y a une cellule, il y a une cellule psychologique qui a été montée à la sortie de la salle, éventuellement pour en parler.
J'entends voilà, pas, mais pour les bonnes raisons.
Voilà.
Voici Tanguy Pasturo. Tanguy, le monde est en perpétuel changement.
Oui, c'est un cycle sans fin. Tous les 5 ans, il y a un nouveau président que les gens adulent 7 minutes avant de souhaiter sa mort pendant 4 ans, 364 jours, 23 heures et 53 minutes. Chaque année, une nouvelle Miss France remplace l'ancienne, alors que la plupart du temps, elle fonctionne encore. Tout change, à part Daniel Morin, qui de saison en saison est présent sur la grille de France Inter, où il mourra en 2060 à 6h59 et 59 secondes. Suite à quoi, Kevin Demorand, le fils de Nicolas Demorand, qui aura pris sa sa place, dira à propos de Daniel, je cite, « Son professionnalisme l'aura poussé à décéder pile à l'heure. » Libération, le lendemain, titrera « Fin de la gauche française, RIP Daniel Morin, l'homme aux 830 000 chroniques. » Il sera montré tellement productif qu'en 2024, le président Xi Jinping l'aura naturalisé chinois. Mais, à part Daniel et Gérard Collomb, tout bouge. Et même Picsou Magazine, l'une des institutions de la presse en France, avec Télé-Z et entrevues. Ben, c'était rassurant, Picsou. Quel que soit le numéro acheté, il y avait une BD où Donald se mettait en colère. C'est Jean-Luc Mélenchon, mais sans slip. On trouvait aussi le courrier des lecteurs où des psys répondaient à des enfants qui écrivaient « À la fête foraine, j'ai tiré la queue du Mickey et ça m'a plu au point que mon père, au cri de « Dans la famille, on n'est pas comme ça », m'a inscrit au club de tir sous le pseudo de Chuck Norris. Et il y avait un gadget d'offert. Alors le gadget, c'était le petit plus. Comme quand à la boulangerie, le pain au chocolat a 3 bars au lieu de 2. Ah ouais. Ou qu'au club coquin, Monsieur Sanchez, le pharmacien, a un 3e téton à titiller.
Quoi ?
Depuis 1972, enfin le gadget de Picsou Magazine existait. Moi, je suis de 74, il est apparu avant moi pour vous dire l'ancienneté du truc. Alors en cadeau, il y a tout eu. En avril 72, était offert le sous-fétiche de l'oncle Picsou. Moi, mes parents étaient communistes, donc à la place, pendant 8 ans, j'ai eu les éléments du petit Colcos Pif Gadget à monter. À la fin, en 84, il y avait une mini-potence à placer au centre de la ferme pour pendre un petit personnage ayant les traits de Ronald Reagan. L'enfant devait crier « À mort l'impérialisme !» Enfin, c'était tellement mignon. En 82, comme gadget, il y a eu les cartes Mémofoot, des autocollants des bleus de l'époque, hein, Jirez, Rocheteau, Lacombe, que des blancs à moustache coiffés avec un sécateur à haies et qui ont œuvré 30 ans avant que le milieu dégorge de brosouf. Il y a eu le ventilo casquette, une casquette avec une hélice au-dessus pour faire du vent. C'était le même concept que François de Rugy, hein, qui fait autant de vent aujourd'hui, mais avec moins de résultats. Et en 91, ils ont sorti l'aileron de requin en mousse. Vous nagiez sous l'eau avec l'aileron qui dépasse, les gens paniquaient, générant un mouvement de foule qui faisait 47 morts, et donc vous planquiez l'aileron dans un bateau avant de revenir sur la rive en sifflant l'air de rien. Vous l'aurez compris, le gadget de Picsou, c'est quelque chose qu'on a toujours eu et qu'on offre à nos enfants en se disant qu'il n'y a pas de raison qu'eux n'aient pas l'air con à leur tour avec le ventilo casquette. Mais ça aussi, c'est fini. On l'a appris lundi à Disneyland, la mascotte de Pluto est sortie de la parade afin de s'isoler pour pleurer. Le gadget Nagui est supprimé.
Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce gadget ?
Eh bien d'être en plastique et c'est en partie de ma faute, moi qui la semaine dernière ai encore fait une chronique anti-plastique. Or les gens suivent mes conseils. Quand je parle, la société s'aligne sur mes propos. C'est ça le charisme. Ainsi Picsou Magazine a décidé d'être respectueux de l'environnement et d'arrêter le plastique. C'est la fin des pistolets à eau et des coussins péteurs. Il n'y aura pas de relève de Cyril Hanouna à l'horizon 2030. C'est une deuxième mort pour Patrick Sébastien à qui France 2 a déjà donné un rond de service afin qu'il cesse de la faire tourner. À la place, Picsou, dans un communiqué rédigé par Riri, Fifi et Loulou qui font leur stage de 3e là-bas, a annoncé mettre en place des gadgets en papier et carton. Enfin, c'est affreux. Nos gosses vont avoir la vie des petits Allemands de l'Est avant la chute du mur. À bientôt, on va leur prendre leur console et à Noël, ils auront un petit avion en chanvre bio fabriqué par un oncle zadiste. Les chaînes de café aussi ont remplacé la paille plastique par la paille en carton. Tout est en carton. Linda de Suzan, en 84, avait 35 ans d'avance avec sa à la con. Avant 2 ans, les meubles seront en carton, les maisons aussi. À chaque fois qu'il pleuvra, ça deviendra tout mou et on perdra l'étage avec la chambre de mamie et les toilettes. C'est ainsi qu'une tradition instaurée en 72 prend fin subitement, juste parce que quoi ? Des tonnes de plastique sont bouffées chaque jour par des baleines infoutues de faire le tri entre ce qui est bon et mauvais pour elles. Une fois de plus, c'est nous qui payons pour la bêtise des autres espèces. Alors Picsou Magazine, en contrepartie, va doubler le nombre de ses pages. 300 au lieu de 150. Plus de lectures, moins de gadgets. On va faire des générations d'intellectuels. Bien joué. Si demain il y a la guerre, on aura 40 millions de lecteurs. Ça va bien nous aider au moment de défendre la nation. Ah, parce que je suis désolé, mais en 82, moi j'ai eu l'arbalète de Dingo avec ses flèches en plastique. Bah, et j'ai éborgné 4 facteurs avec. J'étais le Christophe Castaner de l'époque. Hein, pendant 7 ans, on n'a plus eu aucune facture ni avis d'imposition. Mais nos gosses, ils auront des épées en papier. Heureusement que Laura Flessel est devenue championne d'escrime avant la transition écologique. Parce que les JO de 87, ça aurait été moins télégénique. Terminé le plastique chez Picsou. Adieu le ventilo casquette. Consolation, nos enfants non seulement auront l'air moins con que nous, mais en fait, ils le seront aussi.
Merci Tanguy Pacoros. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Joséphine Japy, je vous avais adoré dans Respire de Mélanie Laurent, et je pense aux vertus écologiques justement et au combat aussi de Mélanie dans Demain. Elle vous faisait part de ses convictions personnelles sur l'écologie, sur le recyclage.
Ouais, c'est ça. Complètement, mais oui, c'est quelque chose qui l'habite profondément. C'est une considération qu'elle avait au quotidien sur le tournage. Je me souviens, il n'y avait pas de bouteille en plastique. Enfin, c'est un truc. C'est un truc qui l'habite complètement. Son engagement, sa conviction au quotidien.
Et Hugo Gélin, lui, il a un combat
sur le tournage.
Pas forcément écologique, ouais. Je parle. Est-ce qu'il a des... Quelles sont ses valeurs?
Il a un combat contre tout ce qui est cru. Tout ce qui est cru en nourriture.
C'est pas un combat, j'en suis la victime.
Je dis Germain.
C'est ça.
C'est tout ça.
Je dis et la Germain. Vinaigrette.
Voilà. Comment faire pour que...
Non, c'est vrai, je n'invente rien.
Comment faire pour que le couple François Civil, Joséphine Japy fonctionne, ce qui est le cas à l'image. Tout à l'heure, je disais, je pense que toutes les filles tomberont amoureuses de François Civil et tous les garçons de Joséphine Japy.
C'est pas sympa. Il faut que je commence à m'y habituer.
Et les autres, de Benjamin Laverne. Est-ce que c'est ça la réussite d'une comédie romantique? C'est ça aussi, il faut tomber amoureux ou amoureuse des vedettes?
Ah oui, je crois. Moi, je crois que Hugh Grant et Julia Roberts sont encore ensemble. Hein. J'espère surtout. Donc, il y a une alchimie à créer, il faut que ce soit évident. Ça s'explique pas, c'est comme le couple dans la vie, en fait. Ça s'explique pas. Des fois, tu veux mettre ton meilleur pote avec une fille, tu dis c'est sûr vous allez marcher, mais ça ne marche pas. Parce que
jamais.
Et ça marche jamais.
La grosse erreur à commettre, c'est de dire vous êtes fait l'un pour l'autre, voilà. D'être responsable du couple.
En plus. Mais parce que c'est irrationnel, ça s'explique pas. Donc,
surtout ton pote finit avec ta sœur en général, c'est ça qui est dramatique.
Quelle horreur.
Ah bon?
Ah bon?
Non, mais c'est parce que c'est le couple interdit quand t'es un meilleur ami. Non, c'est quand tu touches pas à ma sœur.
C'est quand toi tu termines avec ta sœur. Ça, c'est vrai.
C'est ça l'interdiction.
Je vois pas ce qu'il y a de gênant.
Non, mais quand t'es responsable d'un couple, ça m'est arrivé, c'est vraiment problématique. Parce qu'après, quoi qu'il arrive dans le couple, l'un des deux revient devant en disant bravo.
Merci.
T'es ce qu'il m'a fait là depuis qu'on est ensemble. Voilà. Donc là, t'es responsable.
T'es obligé de les rembourser après.
Tu perds les deux.
Non, mais il faut que ce soit crédible, il faut qu'on y croie, il faut qu'on ait envie de vivre
Comment faire pour y croire, justement? C'est pas juste en mettant deux photos sur un mur.
Bah non, justement, il y a même trop de films où on met des acteurs qui sont juste connus l'un à côté de l'autre et on se dit c'est bon, les gens vont suivre. Et moi, ça, j'y crois pas. J'ai besoin que ce soit incarné, que ce soit ressenti, que ce soit beaucoup plus fort que ça. C'est trop important, un film, d'offrir deux heures au spectateur. Il faut que ce soit pur et vrai.
En amont du tournage, ils ont fait des activités ensemble.
Je les ai mis dans une baignoire.
Non, je les ai invités à Prague. On est allés à Prague ensemble pour voir un concert de musique classique de Katia Bounatichvili.
Ouais. Comment ça s'appelle?
Katia Bounatichvili Molimi.
J'avais bien dit la première fois.
Ouais, et en fait,
si
elle
on
est...
passe à l'envers, on invoque Satan.
C'est ça. Et qui nous a gentiment invités pour voir son concert à Prague. Et c'était un peu le prétexte pour filmer. Parce que dans le film, dans les 15 premières minutes du film, on vit 10 ans d'amour. Donc on vit quasiment une comédie romantique à part entière dans la première partie du film.
Exact.
Et donc du coup, fallait filmer.
Comme un clip, quoi. Comme beaucoup d'images.
Et fallait filmer plein d'images pour ça. Donc on est parti à Prague, j'ai pris une caméra. On était tous les trois, Joséphine, François et moi. Et puis je les ai filmés.
Il avait loué un super appart.
Voilà, un sublime appart. Et puis c'est vrai que dès le premier jour, alors il me le répète tout le temps maintenant, je les ai foutus dans une baignoire. Je leur ai dit ce serait hyper beau que vous preniez un bain. Donc ils se connaissaient pas, et c'est vrai que ça a brisé la glace.
Et
clairement.
Ben, on s'est mieux connus très très rapidement.
Tout de suite, tout nu dans la même baignoire.
Ouais.
Complètement.
Complètement.
Non, mais après tu fais de la mousse pour cacher un peu ta nudité. On n'a plus de shampoing et de gel douche sur les trois jours de la fin du week-end à Prague.
Mais c'est quand même tout nu.
Ouais, mais en même temps, il faut y aller, quoi. Il y a un moment où on fait une histoire d'amour, il faut y aller, donc on prend ce bain, il y a Hugo qui nous filme dans un coin.
Elles sont les images.
Et alors, c'est ça qui est
fait dans le film.
C'est ça qui est fait. Elles ne sont pas dans le film.
Il les a gardées chez lui.
Gros malin.
Il y a tous les mecs autour de moi qui veulent être comédiens, là, tu vois.
Juste pour prendre un bain, parce qu'ils sont sales.
Oui.
C'est ça.
Juste faire les premiers jours avec Hugo Gélin.
Voici Frédéric Sylvis.
Alors, comme l'a dit Hugo, un film, c'est très important. Et figurez-vous que Matrix a 20 ans. Oui, alors Matrix, tout le monde voit, hein, c'est ce film où Keanu Reeves, une sorte de Louis Garrel américain avec une hémiplégie du visage, est habillé en fan du Hellfest et se bat contre des agents d'assurance qui font du kung-fu. Alors, c'est plus compliqué que ça, le film, mais j'ai pas le temps de développer. Vous voyez le patient anglais, Nagui ?
Oui.
Eh ben, rien à voir. Voilà. Alors, je le dis tout de suite, Matrix, pour moi, c'est pas un film, c'est une religion. Je l'ai vu 8 fois au cinéma, je le regarde 2 fois par an.
Ça aurait été un dingue.
Non, mais c'est une grille de lecture de notre époque. J'en ai plus appris sur notre société en regardant 2 minutes de Matrix qu'en écoutant parler Raphaël Enthoven pendant 2 heures. Alors évidemment, j'entends déjà l'auditeur de France Inter biberonner au mot compte triple des cahiers du cinéma, dire sur un ton consterné, oh, bah avec des références pareilles, pas étonnant que le niveau baisse.
C'est franchement.
Ah oui, oui.
Alors voilà.
Outre que j'invite très cordialement cet auditeur à respecter mes différences et à aller se faire cuire le cul, j'aimerais rappeler que Matrix racontait il y a 20 ans ce qu'on est exactement en train de vivre aujourd'hui. Par exemple, Fly Rider, t'es Maxime Nicole, ouais. T'es le gilet jaune qui porte toujours sa casquette retournée pour faire croire qu'il a des yeux derrière la tête. Ah, parce que comme ça, si jamais Emmanuel Macron voit un ninja de la DGSE qui veut l'attaquer par derrière, il saura pas où est l'envers de l'endroit. C'est un génie. Bon, quand il fait ses petites vidéos tout seul dans sa chambre où il t'explique les arcanes de la finance mondiale, les complots gouvernementaux, à quel point les médias nous manipulent, il se voit comme Morpheus. Le système, pour lui, c'est la matrice. Les CRS, c'est l'agent Smith. Donc t'as beau lui dire, Fly Rider, dans ta dernière vidéo, là, les camionnettes blanches qu'enlèvent les enfants dans Paris, c'est chaud. Même, c'est un peu des grosses conneries. Et bah lui, il va te regarder comme dans Matrix, il va te répondre « C'est parce que t'es un agent du système. Si tu es pas l'un des nôtres, tu es l'un des leurs. » Parce que dans Matrix, le principe est que les gens qui vivent dans la matrice, ils sont un peu comme le public qui vient nous voir chaque matin, c'est-à-dire endormis. Ah, ils ont pas conscience d'être esclaves du système. Alors je dis pas que notre public est esclave du système. À moins que le système, c'est comme ça qu'on appelle un égyptien qui porte des chaussures de dessin animé et qui pose des questions trop longues. Mais ce que je dis... Voilà. Oui, c'est bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est que dans Matrix, on serait tous des piles de combustible qui servent à alimenter les machines. Eh ben, qu'est-ce qu'ils nous disent depuis 5 mois, les gilets jaunes ? Eh ben, qu'ils en ont marre d'être des piles. Ils disent une phrase qu'Harvey Weinstein n'a jamais dû prononcer durant toute sa vie. On en a marre d'être pompé. Quand tu galères et que ton pognon sert à renflouer des banques, rembourser des déficits ou enrichir des actionnaires, t'as un peu l'impression que dans le village d'Astérix, t'étais pas Astérix, t'es le Gaulois qui porte le bouclier d'Abraham Raccourcix. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les réveille. La France, en 2019, c'est Matrix vachement moins bien filmé. Le problème, c'est que Matrix, c'est une trilogie, et que la plupart des gens n'ont soit pas vu, soit pas compris les 2 derniers volets. Parce que dans Matrix 2, les sœurs Wachowski nous montrent que la rébellion fait partie intégrante du système. Elle est la variable nécessaire à la pérennité de ce dernier. Elle est voulue par le système pour donner l'illusion du choix. Les gilets jaunes, moi sur cette antenne avec mes chroniques produites par l'amicale bolchevique des mangeurs de quinoa, on est les idiots utiles de ce gouvernement. On donne l'illusion du choix. Et mec, t'es pas d'accord avec la politique de Macron ? Va te faire ta petite manif de gilets jaunes tous les samedis de 3 à 7. Va cramer un abribus sous la vitrine du footquet si ça peut te faire du bien. Nous, on fera une interpellation de temps en temps, avec ce qu'il faut de violence pour garder sous contrôle le reste de la population. Un coup un œil, un coup une main, oh, une petite vieille, ça fait 3 points. Et voilà ! Et qui est gagnant dans tout ça ? Facebook, qui relaie les vidéos de Fly Rider, Amazon, qui permet à ceux qui n'osent plus sortir de faire leurs courses, et Google, qui référence joyeusement tout ça. Bref, tous les GAFA qui ne payent pratiquement pas d'impôts nulle part. La dénonciation du système enrichit, une fois de plus, le système. Et Matrix nous explique que dans la relation de domination qui lie le gouvernement aux citoyens, nous les rebelles, nous les gauchos, eh ben en fait, on n'est rien de plus que du poppers.
Ah. Bravo.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
C'est le mot popper, ça. Ouais,
bah, forcément.
Vous êtes Benjamin Laverne à l'affiche de combien de films en même temps là ?
C'est un peu foufou, ouais, deux le même jour.
C'est ça ?
Voilà.
Curiosa aussi ?
Deux aujourd'hui. Curiosa de Lou Jeunet.
Je n'ai pas vu ce film. Vous êtes quel personnage dans Curiosa ?
C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Pierre-Louis et Henri de Régnier, qui sont deux jeunes dandys poètes en 1890 à Paris.
Deux écrivains, c'est ça ?
Deux écrivains, exactement, ouais. Qui écrivent de la poésie érotique, notamment. Et qui sont fous amoureux de la même fille, qui est Marie de Heredia, la fille de José Maria de Heredia. Mmh. Et ils font un espèce de pacte d'amitié, c'est encore une histoire de potes, de meilleurs amis, et de non-intervention. Voilà. C'est elle qui
tout
viendra.
Ça avec une toile de fond de liberté sexuelle.
Oui, c'est vraiment un film sur la libération. Enfin, pas sur la libération sexuelle, non. Mais c'est sur les libertés sexuelles, parce que ce sont des gens qui sont fous d'amour, qui ne parlent que de ça, qui font presque que ça. Ils écrivent et ils parlent d'amour et ils font l'amour.
Et, des baignoires ?
Pardon ? Dans des baignoires, bien sûr,
à Sabot. On voit encore vos fesses ?
Non, parce que je couche pas, moi. Je
suis le mari. Il est dégoûté.
Je finis par me marier avec elle et l'autre devient son amant. Voilà. J'ai une très très belle moustache et un monocle.
C'était
mon cadeau, moi, c'était mon cadeau du film. Ouais.
Et à la Comédie Française, vous jouerez Electre.
Electre et Oreste, ouais. Euripide, donc en spectacle. Et c'est Ivo Van Hove, qui est un grand metteur en scène flamand, qui est
ouais, qui des années. Guillaume Gallienne, ouais.
Exactement. Et voilà, je joue le laboureur. Voilà, pour tout vous
on
dire.
On est dans le même thème.
Un laboureur mycélien. Et on voit pas mes fesses, mais venez quand même.
Et vous serez également à l'affiche de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.
Oui.
Et également de French Dispatch.
Alors oui, ça c'est une charge. Je suis dans parce que je serai au ciné. Je suis dans le générique de French Dispatch avec Kate Winslet.
Que vous ne connaissez pas.
Kate.
Non.
Si je la connais.
Mais pourquoi ça vous fait rire?
Ça me fait rire parce que je vais avoir trois secondes une apparition. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de mystère. On pouvait pas lire le scénario. On te dit, t'es pris sur un film de Wes Anderson. C'est
ouais.
Cadeau.
Ouais.
Rends-toi compte de ta chance. Tu viens à Angoulême et tout ça. Donc moi, j'y suis allé. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais pas à l'affiche. J'avais pas de numéro de rôle. Il y a rôle 58 et rôle numéro 5 aujourd'hui. Et c'était deux acteurs américains que je connaissais de vue. Puis je fais, mais je fais quoi, moi? Puis je suis arrivé sur le plateau et j'ai compris que. Tu te mets là, t'as pas de texte. Donc voilà, c'était une petite Kinder surprise.
C'est fou.
Mais ma récompense, c'est que je suis au générique.
Bah ouais.
Je suis allé au ciné, j'ai tourné avec Wes Anderson.
Voilà. Wes Anderson prend donc des comédiens de la Comédie Française pour faire de la figuration. Ouais. C'est quand même incroyable.
C'est chic.
Et vous faites quand même vos courses entre Pierre Niney et Benjamin à la Comédie Française. Vous aimez ça? C'est un repère pour vous, c'est un vivier.
Mais Pierre, il n'était pas à la Comédie Française quand je l'ai pris dans Comme des frères. Pas encore.
D'accord.
C'est grâce à vous?
Non, c'est grâce à lui. Il est arrivé après, en fait, à la Comédie Française. Et Benjamin, je t'ai connu un peu quand tu rentrais là-bas. Mais donc non, je fais pas mes courses là-bas. Mais j'adore aller voir mes potes
c'est
là-bas.
Bon, c'est un bon blague. Non, je vais
dire.
J'ai très mal au jambon.
Quand on voit la qualité des comédiens, vous aurez bien tort de pas y aller.
Pas tous.
En tout cas, Benjamin, moi, je vous dis droit dans les yeux. Je vous adore. Je vous trouve formidable. Formidable, vraiment formidable. J'ai hâte de voir tous les.
Et dans ce capin, il est incroyable.
Dans ce capin, il a joué ce capin. Incroyable.
Merci.
Et ça rejoue en octobre, ce capin.
On reprend ce capin en octobre. Voilà.
Et quant à vous, Joséphine, on a dit tous les garçons autour de cette table sont tombés amoureux de vous. Vous le savez maintenant, il va falloir subir ça.
Non,
pas moi. Et assumer ça. Que va-t-il se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent? Quelles sont
alors,
vos envies?
Vu ce que tu viens de dire, elle va se cacher sûrement. Quelques années.
Elle va appeler ses parents.
Vous voulez dire, professionnellement?
Je me permets
de poser la question.
Quatrième trou dans l'oreille.
Écoutez.
J'ai un grand projet.
C'est insupportable.
Allez-y, Joséphine.
Mais je vous aime.
Du monde.
Non, alors du coup, j'ai un autre film qui va sortir dans les mois qui arrivent, qui est un premier film de Mathias Pardo, avec Nekfeu, Khadija Touré et Rod Parado. Voilà, et puis je repars sur les tournages, là, donc je vais faire une adaptation de Eugénie Grandet, donc je suis assez excitée.
Super.
Ouais. Et puis voilà.
Et le théâtre, et puisqu'on parle beaucoup de la scène des planches avec Benjamin Laverne, en avez-vous envie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou c'est pas dans les projets immédiats?
Alors complètement, j'adorerais y aller. Je pense que je serais très très stressée. C'est quand même un autre rapport, le rapport au public est immédiat, quoi. Nous, au cinéma, on oublie un peu ce truc-là.
Oui, mais c'est jamais deux soirs identiques, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure.
Complètement.
C'est ça la force.
Complètement.
Puis moins on en fait, plus on a peur. C'est vraiment plus tu recules, plus tu recules. C'est comme François, moi j'adorerais qu'il a déjà fait du théâtre, mais qu'il s'y remette.
Ouais, mais je pense que ça vient un moment avec le projet, le bon projet. Mais ouais, j'aimerais bien.
Il faut qu'il y ait un appel, quoi. Il faut qu'il y ait une envie profonde.
Ouais, complètement.
En tout cas, Mon Inconnu vous fera du bien, parce que c'est vrai que quand on sort de ce film-là, on trouve un écho dans ses propres vies, dans ses propres rapports, que ce soit de potes, que ce soit d'amour, que ce soit de famille. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est un bon moment à passer, extrêmement drôle, romantique. À souhait, sans être gnangnan. L'exercice était sur une corde raide et c'est réussi, monsieur Hugo Gélin. Donc, il y a déjà ses quatre prochains films, puisqu'ils étaient tous dans le premier.
Non, là, je break un peu, je me repose. Non, je produis aussi d'autres films, donc c'est un truc. Là, j'avais produit le premier film de Ruben Alves qui s'appelait La Cage Dorée. qui est mon ami d'enfance. Et là, je produis son deuxième film qui s'appelle Miss, qui sort dans un an. On vient de terminer le tournage, voilà, avec Pascal Arbillot, Isabelle Nanty, Thibaut de Montalembert.
Parfait, voilà. Parfait, on a hâte. Mon inconnu, c'est aujourd'hui, et connu, pas connu, que ce soit dans la notoriété ou connu, pas connu, qu'est-ce que l'on sait de l'autre, de ses envies, de ses attentes? Est-ce qu'on est suffisamment attentif à ses attentes? Tous les jeux de mots possibles avec ce titre-là fonctionnent. Allez voir le film, il est vraiment réussi. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé déjà pour les apprentis comédiens, futurs comédiennes au chômage, qui ont découvert, grâce à Joséphine, qu'il suffit de ne pas dormir pour jouer juste les ruptures, comme quoi c'est vrai, c'est un beau boulot d'escroc. Désolé pour tous nos fidèles auditeurs qui ont été étonnés, choqués, bouleversés d'entendre Nagui et Leïla, les deux malfrats, apôtres du sexe non hygiénique, parler de romantisme, de beaux sentiments, ouais, d'amour. Vraiment que des escrocs ce matin. Et désolé pour Canteloup, Gérard Lecoq, dont le talent, la carrière, la technique ont été salopés, tambourinés par les imitations parfois gênantes de Jean Rochefort, de Jean-Pierre Varial, par Hugo Gela, décidément spécial escroquerie ce matin. Et pour rester dans le thème de l'escroquerie, je rappelle que le livre de notre spécialiste Marc Bellassem s'intitule L'énergie d'aimer, c'est chez Larousse.
Quel salaud. Demain, et c'est Hélène Darroze que nous allons cuisiner dans cette émission. Passez une bonne journée, une bonne matinée. Allez voir Mon Inconnu. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Internet.
Merci, Nagui. Merci, les amis. À demain.